Le journal est présenté par Margot Steve.
Bonsoir. Benjamin Netanyahou est à Paris aujourd'hui pour rencontrer Emmanuel Macron. Au cœur des discussions, le nucléaire iranien. Les deux chefs d'État sont maintenant au Grand Palais. On sera en direct avec Nadine Epstein. En Italie, le nouveau chef du gouvernement a détaillé sa future politique devant les sénateurs aujourd'hui. Giuseppe Conte qui assume son étiquette de populiste. Réformer le logement en France, c'est l'ambition du projet de loi Élan débattu en ce moment par l'Assemblée. Alors qu'est-ce que cela va changer concrètement? On en parle avec l'économiste Michel Mouillard, il est l'invité de ce journal. Et puis, quel monde voulons-nous pour demain? Vaste question sur laquelle les Français étaient consultés. Le comité d'éthique a rendu aujourd'hui les conclusions aux députés. Benjamin Netanyahou a rencontré Emmanuel Macron cet après-midi pour la deuxième étape de sa tournée européenne. Après l'Allemagne hier et le Royaume-Uni demain, le président israélien a tenté de convaincre son homologue français de durcir le ton face à l'Iran. L'Iran qui annonce ce matin vouloir augmenter sa capacité d'enrichissement d'uranium avec la construction de nouvelles centrifugeuses. Une annonce qui ravive encore un peu plus les désaccords sur ce dossier. D'un côté, Israël veut l'abandon de l'accord sur le nucléaire iranien, accord dont se sont retirés les États-Unis le 8 mai dernier. De l'autre, les Européens veulent sauver ce qui reste de cet accord, mais chacun reste campé sur ses positions. Après s'être expliqué en tête-à-tête, les deux chefs d'État se sont exprimés vers 20h.
Vous connaissez la vive préoccupation que suscite dans nos deux pays l'instabilité régionale, y compris la présence militaire de l'Iran dans la région. Et j'ai redit au Premier ministre ma conviction profonde, partagée par nos partenaires européens, que l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien devait être préservé pour contrôler l'activité nucléaire de la région, mais n'avait jamais été considéré par la France, en tout cas depuis un peu plus d'un an, comme suffisant et pleinement satisfaisant.
Le plus grand danger pour le monde aujourd'hui et de mon point de vue, l'arme nucléaire dans les mains d'un régime islamique radical tel que celui de Téhéran. Les archives nucléaires que nous avons trouvées récemment prouvent que l'Iran a menti au monde sur son programme d'armement nucléaire. Que ce soit clair, je n'ai pas demandé au président Macron de se retirer de l'accord. Je crois que les réalités économiques sont plus susceptibles d'influencer sa décision.
Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron sont ensuite partis au Grand Palais pour lancer une série d'événements culturels croisés entre la France et l'Israël. Nadine Epstein, vous êtes sur place, bonsoir.
Bonsoir.
Après les désaccords, les deux chefs d'État ont essayé de mettre en avant leurs points communs ce soir, Nadine.
Oui, effectivement, Benjamin Netanyahou a été le premier à prendre la parole et a d'ailleurs commencé à parler avec quelques mots en français pour rappeler les 70 ans de liens historiques et d'amitié entre Israël et la France. Puis retour à l'anglais, Benjamin Netanyahou a énuméré les points communs, les valeurs communes que partagent nos deux pays, la lutte contre le terrorisme, la démocratie, point sur lequel il a insisté, précisant que les minorités étaient représentées dans toutes les instances israéliennes. Et là, le public présent l'a soutenu en applaudissant. Et Benjamin Netanyahou a poursuivi avec l'égalité, la fraternité, la solidarité que son pays met en avant, tout comme la France. Macron et moi recherchons la paix, a-t-il déclaré, car nous sommes des pays libres de progrès et d'innovation. L'innovation est le maître mot de cette exposition présentée au Grand Palais. Innovation, clé de progrès, et le monde peut changer grâce à la technologie qui permet d'améliorer l'agriculture, la médecine, la vie quotidienne des citoyens, tous ces domaines qui sont ici visibles au Grand Palais. Le peuple juif vit grâce aux valeurs que nous partageons avec la France, a conclu le Premier ministre israélien qui a invité Brigitte et Emmanuel Macron à se rendre en Israël. Invitation que le président de la République a acceptée. Mon cher Bibi, Brigitte et moi viendrons avant la fin de l'année, a-t-il déclaré. Et Emmanuel Macron a ajouté que même si les deux pays avaient des désaccords politiques, ils partagent les mêmes défis comme celui de l'innovation et cette saison croisée France-Israël qui se déroule parallèlement ici et là-bas durera 6 mois.
Merci Nadine Epstein. Et autre conséquence de ces tensions avec l'Iran, depuis le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire, le groupe automobile PSA a décidé de quitter le pays pour ne pas subir les sanctions américaines. L'Iran qui était pourtant le plus gros marché de PSA en volume. En Italie, les sénateurs ont accordé leur confiance ce soir au nouveau président du Conseil. Giuseppe Conte a précisé devant eux les grandes lignes de son programme gouvernemental. Un programme issu d'un compromis entre les lignes de la Ligue et du mouvement 5 étoiles dont il est issu. Giuseppe Conte qui, devant les sénateurs, a revendiqué clairement une politique populiste. À Rome, Mathilde Imberti.
53 ans, novice en politique, Giuseppe Conte se présente comme un simple citoyen au service de son pays. Un profil cher aux antisystèmes du mouvement 5 étoiles, étiquette que le président du Conseil assume.
Si le populisme est l'aptitude de la classe dirigeante à écouter les besoins des gens, si anti-système signifie mettre en place un nouveau système qui retire les privilèges, nous méritons ces qualificatifs.
Le gouvernement du changement passe par un renoncement à l'austérité, selon Giuseppe Conte, plus de droits sociaux, par exemple un revenu minimum garanti aux plus pauvres. Enfin, face au défi de l'accueil des migrants, il tient un discours de fermeté proche de la Ligue.
Nous mettrons fin au business de l'immigration, qui a augmenté de manière démesurée à l'ombre d'une fausse solidarité. Pour les migrants qui n'ont pas, au sens de la loi, le droit de rester sur notre territoire, nous agirons pour qu'ils soient effectivement expulsés.
Le Sénat vote la confiance au gouvernement dans la soirée, avant la Chambre des députés demain, un feu vert quasiment garanti.
Mathilde Imberti, correspondante de France Culture à Rome. Après plus de 15 ans de carrière, l'ancien chef du gouvernement espagnol, lui, prend ses distances avec la vie politique. Mariano Rajoy quitte la tête du Parti Populaire. Il l'a annoncé ce matin, quelques jours seulement après avoir été renversé par une motion de censure. « C'est le mieux pour le Parti Populaire, pour moi et je pense aussi pour l'Espagne », a déclaré Mariano Rajoy. Les députés débattent en ce moment à l'Assemblée de la loi Élan. Élan comme évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Un texte qui prévoit notamment de réformer le logement social. Pour en parler avec nous, Michel Mouillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste du logement à l'université Paris 10 Nanterre. Alors est-ce que la France avait vraiment besoin d'une réforme de fond sur la question du logement ?
La loi qui est présentée s'inscrit dans la problématique des lois qui succèdent depuis un grand nombre d'années déjà. Les lois se succèdent parce que elles permettent progressivement d'améliorer des dispositifs qui avaient été mal vus, mal calibrés, mal pensés peut-être. Et donc là, on a un exemple d'une loi qui consiste en un empilement de petites mesures qui sont ensuite organisées autour d'un grand projet. Voilà, cela n'est pas surprenant. Souvenons-nous de ce qu'a été la loi Allure, c'était à peu près la même chose, et le résultat a été que les uns et les autres se sont aperçus qu'il fallait revenir sur certains aspects. Ou bien il y avait des questions qui n'étaient pas abordées parce que les uns et les autres n'avaient pas les éléments ou n'y avaient pas pensé. Exemple, ce qu'on appelle la numérisation, ce qui va correspondre à l'évolution de la dématérialisation des permis de construire. C'est aujourd'hui possible, c'est inscrit dans le dispositif. De la même façon, on sait bien qu'il y a de grosses difficultés pour construire à l'intérieur des centres-villes. La transformation des bureaux en logement va permettre d'avancer sur ce terrain-là. Donc voilà deux exemples, il y en a une multitude d'autres. Mais prises une à une, ce sont des mesures qui auraient pu rentrer dans un dispositif autre que législatif. Bon, maintenant, il faut bien voir que cette loi pose beaucoup de questions, et notamment parce qu'elle va empiler. Et souvenez-vous, ce qu'est le discours des responsables politiques depuis un grand nombre d'années, c'est dire il faut alléger, il faut éviter de rajouter de la complexité à la complexité. Là, il n'est pas certain à la sortie qu'on ait un dispositif qui soit plus clair, plus lisible, étant assuré que de toute façon, il va y avoir pour tous ceux qui s'intéressent à cette question du logement, des bouleversements sur beaucoup de secteurs.
Alors sur la question du logement privé maintenant, est-ce que cette loi est au fond en faveur des locataires ou des propriétaires selon vous ?
Alors encore une fois, la loi n'est pas pour les uns ou contre d'autres. En fait, elle cherche à faire évoluer avec un objectif global. qu'il faut bien voir, qui sous-tend une grande partie des dispositions qui sont contenues dans les articles. C'est réduire les engagements budgétaires de l'État, faire des économies budgétaires et reporter sur d'autres la charge de la mise en œuvre de la politique du logement. Donc, ici, il y aura toujours des insatisfactions parce que les uns considéreront que, par exemple, il aurait fallu inscrire dans le marbre définitivement l'impossibilité des expulsions. Parce que d'autres diront au contraire, aujourd'hui, les expulsions ne sont pas suffisamment faciles et on se retrouve avec des occupations de logements que personne n'aurait souhaité, aussi bien dans le privé que dans le social. Maintenant, ce qui est remarquable dans cette loi Élan, c'est que ce qui, a priori, dans les propos qui étaient ceux d'Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, était clair, l'encadrement des loyers, c'est une vieille histoire, disait-il. Aujourd'hui, l'encadrement des loyers est revenu par la grande porte.
Michel Mouillard, pardon, très rapidement. Certains, vous l'avez évoqué, comme la Confédération nationale du logement, dénoncent un désengagement de l'État du financement du logement social. Vous êtes d'accord avec ce constat ?
Vous savez, le désengagement de l'État du logement, c'est une vieille histoire. Si on prend le quinquennat précédent, puisqu'aujourd'hui, on a rappelé, enfin, dans les attendus du projet de loi, il a été rappelé que le pays consacrait 40 milliards par an pour aider le logement, soit 2% du produit intérieur brut. Souvenons-nous que en 2011, l'effort en faveur du logement, c'était 2,1% du produit intérieur brut. Cette année, l'effort en faveur du logement, il n'est pas de 2%, il est de 1,6%. Donc, cette baisse de l'effort consacré à aider le logement, c'est quelque chose qui constitue une évolution inscrite dans la longue période.
Merci. Maintenant, merci Michel Mouillard, on va devoir vous laisser, merci. On rappelle que vous êtes économiste du logement à l'université Paris 10 Nanterre. La procréation médicalement assistée, la fin de vie, l'évolution de la médecine, autant de questions sur lesquelles les Français ont été consultés pendant plus de 4 mois dans le cadre des états généraux de la bioéthique, avec des auditions en commission, des débats et aussi beaucoup sur Internet. Et aujourd'hui donc, le Comité consultatif national d'éthique a remis au Parlement un premier rapport, Tara Schlegel.
190 pages découpées en 9 thématiques qui recensent à chaque fois le cadre réglementaire parfois complexe et les questions opinions soulevées pendant les débats, y compris au cours des auditions de personnalités qualifiées. On trouve donc dans le rapport les lignes de fracture, mais on ne sait pas si une majorité se dégage sur chaque thème. Pour Jean-François Delfrécy, le comité d'éthique a refusé de verser dans une méthodologie simpliste.
En créant un sondage en janvier, en février, en mars ou en avril. Il ne l'a pas fait. Ce qui nous intéresse, et c'est dans la construction de la bioéthique, c'est d'écouter les arguments qui font que la construction de pensée va aboutir finalement à tel ou tel type de position.
C'était donc un moment de démocratie sanitaire qui est allé bien au-delà des questions les plus polémiques sur la procréation médicalement assistée, la PMA, ou sur l'euthanasie, poursuit le professeur Delfrécy.
On a eu de très nombreuses discussions intéressantes sur la génomique, sur l'intelligence artificielle, sur le numérique et santé, sur l'avenir des neurosciences, autour du don d'organes et sur le statut des donneurs vivants. Il y a une série de choses qui sortent de ces états généraux et surtout où on retrouve un socle de valeurs, ce n'était pas gagné d'avance entre guillemets, de valeurs bien sûr de bioéthique, de valeurs humanistes un peu, autour finalement de la non-marchandisation, de s'intéresser aux populations les plus défavorisées, de série de grandes questions de ce type qui restent le socle de notre société française.
Alors ces valeurs communes n'ont pas empêché les participants d'avoir des positions parfois opposées. Tout cela est donc recensé dans le rapport. Le Comité national consultatif d'éthique rendra lui son avis en septembre. Avis consultatif sur toutes ces thématiques qui doit aider le gouvernement ensuite à légiférer en 2019.
Tara Schlegel. Les sénateurs ont adopté aujourd'hui la loi sur la réforme ferroviaire, une version légèrement modifiée pour tenter d'apaiser le conflit social qui dure maintenant depuis plus d'un mois. Mais les syndicats ont appelé à maintenir la pression et à continuer la grève. Une nouvelle journée de mobilisation unitaire est prévue le 12 juin. La météo encore et toujours des orages. Météo France place 29 départements en vigilance orange dans le centre et l'est du pays. Ailleurs, demain matin, ce sera de la pluie à l'ouest et du soleil à l'est et dans le sud. Ce journal a été préparé avec Nathalie Lopez et Pierrick Monsigny.